France.
Il est 18h et vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Je demande à AstraZeneca de nous fournir des informations complètes et de respecter ses obligations contractuelles et morales.
Le torchon brûle ce soir entre l'Europe et AstraZeneca. Le laboratoire ne sera pas en mesure de fournir la totalité des doses promises aux 27 et donc à la France, mais un quart seulement.
Branle-bas de combat à Bruxelles qui demande donc des comptes et veut vérifier les explications du laboratoire.
Le couvre-feu à 18h ne suffit pas à stopper l'avancée du virus. C'est le porte-parole du gouvernement qui le dit aujourd'hui. Du coup, il va sans doute falloir frapper plus fort. On verra quelles sont les options sur la table.
Quand les arnaqueurs font feu de tout bois dans le Pas-de-Calais, des personnes âgées ont été démarchées pour une vaccination à domicile dans le but de les cambrioler.
Au sommaire également, les expertises de la dernière chance dans l'affaire Grégory Villemain.
Oui, 36 ans après les faits, peut-être l'espoir de démasquer enfin le ou les assassins de l'enfant.
Et puis terre en vue, ou presque, pour les marins du Vendée Globe. Charlie Dalin n'est plus qu'à quelques encablures des Sables d'Olonne. La Bourse de Paris a terminé ce soir en nette baisse, moins 1,16% à 5 459 points.
Et puis la météo, attention, toujours des vigilances en cours ce soir. Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien. Oui, nous avons des vigilances avalanches et pluie inondation dans les Alpes. Demain, le temps reste très maussade et très humide sur quasiment tout le pays. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un retard qui va avoir des conséquences sur la campagne de vaccination en France. On savait depuis vendredi dernier que le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca ne serait pas en mesure de livrer à l'Europe la totalité des doses promises. Eh bien, la Commission européenne précise aujourd'hui qu'elle s'attend à ne recevoir que 25% de ce qui était prévu au premier trimestre.
Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. L'Europe est donc furieuse ce soir.
Ah oui, furieuse de ce retard et des explications vagues qui lui sont données depuis quelques jours, et furieuse de lire dans la presse des déclarations du patron d'AstraZeneca. Selon lui, ces délais de production, c'est parce que l'Europe a signé son contrat trop tard, 3 mois après le Royaume-Uni. Et donc, il honore d'abord la commande britannique en lui réservant en priorité les vaccins fabriqués par ses deux usines outre-Manche. La commissaire européenne à la santé s'étrangle. Elle rappelle que les 27 ont financé la compagnie en amont. 336 millions d'euros d'investissement tout de même. Stella Kyriakides pointe qu'AstraZeneca a signé avec l'Union européenne un contrat pour 400 millions de doses et qu'il comporte des engagements de livraison indépendamment de ses promesses à d'autres pays.
Dans notre contrat, rien ne dit qu'un autre pays, le Royaume-Uni par exemple, a priorité sur nous parce qu'il aurait signé son contrat avant. Notre contrat prévoit des objectifs trimestre par trimestre. Il n'y a pas de clause de priorité.
Côté français, Bercy confirme ce soir n'attendre que 26% des livraisons prévues au premier trimestre, un peu plus de 4,5 millions de doses seulement. Mais le gouvernement se veut quand même rassurant, cela ne devrait pas remettre en cause l'objectif de vacciner dans les temps les 15 millions de Français prioritaires grâce à la montée en puissance des autres vaccins, Pfizer et Moderna.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Horry, en direct de Bruxelles.
Oui, on reparlera des vaccins, vous l'avez compris, avec notre invité exceptionnel, 19h15. Grand entretien à suivre ce soir. Soyez au rendez-vous, on a plein de questions à lui poser. Olivier Beaugillot, le patron de Sanofi France.
En tout cas, un éventuel retard dans la campagne de vaccination est un facteur que l'exécutif va devoir prendre en compte. Lui qui hésite déjà sur la méthode à adopter face à des chiffres de contamination qui grimpent inexorablement.
À l'issue d'un nouveau conseil de défense à l'Élysée ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a donc confirmé une information très importante. Le couvre-feu tel qu'il est appliqué actuellement ne suffit plus pour contrer l'épidémie.
Le couvre-feu à 18h a une efficacité aujourd'hui relative. Nous avons des données qui permettent de montrer qu'il freine dans une certaine mesure la circulation du virus, mais à ce stade, il ne freine pas suffisamment la circulation du virus pour être considéré comme pleinement efficace. Sans attendre, nous anticipons et nous avons travaillé ce matin sur différents scénarios qui peuvent être envisagés sur la base de la situation actuelle.
Bonsoir Louis Draganel.
Bonsoir Isabelle.
Alors vu que le couvre-feu manifestement ne freine pas, on vient de l'entendre, la progression du virus, que le variant britannique progresse à grands pas et qu'on risque peut-être de prendre du retard dans la campagne de vaccination à cause d'AstraZeneca, quel est le scénario envisagé? Qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui?
Alors c'est vrai qu'on a tous envie de le savoir, comme avant chaque confinement. Le gouvernement évoque plusieurs scénarios possibles, comme on vient de l'entendre. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a donné une indication quand même ce matin après le Conseil des ministres en expliquant que les hypothèses vont du maintien du cadre actuel jusqu'au confinement très serré avant de préciser quelques secondes plus tard que le statu quo paraît peu probable. En clair, pour bien comprendre, il n'est donc pas question d'alléger les restrictions. Autre certitude, si le président a demandé plus de temps pour trancher, c'est parce que la décision est difficile à prendre. D'ailleurs, ce n'est pas un détail, le Premier ministre Jean Castex doit recevoir demain et après-demain les représentants des partis politiques et des syndicats. Souvenez-vous, il s'était passé exactement la même chose avant le premier et le second confinement.
Mais qu'est-ce qu'il faut entendre exactement quand Gabriel Attal parle de confinement très serré ?
Alors, selon plusieurs proches de l'exécutif, cela pourrait se traduire par un confinement comme celui que nous avons vécu en mars-avril dernier, c'est-à-dire avec fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, mais aussi impossibilité de circuler sans attestation ou encore d'aller chez le coiffeur. Si ce scénario est retenu par le gouvernement, eh bien Isabelle, on n'a plus qu'à espérer qu'il fasse beau.
Agnel du service politique d'Europe 1, et on nous souhaite effectivement le soleil et du beau temps. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, voilà que l'on découvre que certains en profitent et profitent de la campagne de vaccination pour tenter d'arnaquer des personnes âgées.
Oui, ça se passe à Oudin, dans le Pas-de-Calais, où vous vous trouvez, Lionel Gougelot. Des retraités ont été démarchés, on leur proposait des rendez-vous à domicile.
Oui, effectivement, Isabelle Levent, la maire d'Oudin, a recueilli plusieurs témoignages de personnes âgées ciblées par ces tentatives de cambriolage par ruse. À chaque fois, un coup de téléphone avec, au bout du fil, un interlocuteur en apparence très sérieux et officiel.
La première réaction des personnes, c'est « Ah ben, on est content, on va être vacciné ». Eh ben oui. Et puis la deuxième réaction, ça a été « Mais c'est quand même bizarre ». Et donc, les personnes ont eu le bon réflexe d'appeler soit leur commune, soit leur médecin pour leur demander des renseignements. Et on dit tout de suite « Non, non, c'est pas possible, faut pas faire comme ça ».
Des escrocs qui essayent donc de profiter de la faiblesse et de la fragilité de certains habitants en attente de vaccin.
Accepter une vaccination à domicile, je pense que c'est aussi de l'espoir. Mais il y a aussi cette idée de reprendre ses petits-enfants dans les bras, et ça je l'entends beaucoup. Et les escrocs, malheureusement, surfent sur cette détresse. Et l'idée de prendre rendez-vous chez les personnes âgées pour faire le vaccin, oui, c'est dangereux.
Alors l'alerte a été largement diffusée dans la commune et aux alentours. Et Estelle, une commerçante, s'inquiète pour sa maman retraitée.
Je vais la prévenir dès ce soir. Comme elle est en âge de se faire vacciner, si on lui mes monts et merveilles et que c'est une arnaque, je vais bien la prévenir. Surtout pas répondre affirmativement si elle a un appel téléphonique.
Pour l'heure, aucune victime n'a été officiellement recensée, mais pour la maire de la commune, cela n'empêche pas d'être particulièrement vigilant.
Lionel Gougelot, reportage correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et puis c'est toujours une conséquence du Covid, on l'a appris tout à l'heure. Le festival de Cannes est reporté au mois de juillet, du 6 au 17 juillet.
Europe 1. Julien Bugier.
Restez avec nous 18h07 dans quelques secondes. Plus de 36 ans après l'assassinat du petit Grégory Villemain, la science pourrait permettre d'élucider enfin l'affaire.
Et puis on sera au Sable d'Olonne, arrivée imminente pour Charlie Dalin.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite du journal, et donc on parle de ce nouvel espoir de connaître enfin un jour la vérité dans l'affaire Grégory Villemain grâce aux avancées de la science.
Oui, de nouvelles expertises génétiques vont avoir lieu. Arthur Henbaché, elles étaient réclamées par les parents du petit garçon.
Jean-Marie Villemain est très satisfait. Le père du petit Grégory l'a dit ce midi à ses avocats, satisfait de la validation donc par la justice de presque toutes les demandes d'expertise que lui et sa femme Christine ont formulées. Les parents Villemain sont défendus par maître François Saint-Pierre.
Vous savez, en matière d'archéologie, on peut résoudre des énigmes 2000 ans après. Dans les anciennes affaires criminelles, c'est la même chose. Ce sont donc des technologies d'ADN qui permettent d'établir des corrélations en différents prélèvements. Moi, je vois que la justice reste déterminée pour élucider l'énigme de l'assassinat du petit Grégory.
L'ADN de parentèle, c'est de ça dont on parle, enthousiasme beaucoup moins Frédéric Bernat, l'avocat de la grand-tante de Grégory, Jacqueline Jacob, récemment et brièvement mis en examen dans l'affaire.
Dans ce dossier, c'est naufrage sur naufrage sur naufrage, c'est emballement sur suremballement sur suremballement à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent, extrêmement mesuré.
La vérité grâce à la science ou la vérité par la libération de la parole, c'est ce qu'espère le procureur général de Dijon qui disait récemment au sujet de cette affaire Grégory, il y a des gens qui savent et qui se taisent.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est.
Ça y est, on connaît les dates du procès en appel de François Fillon et de son épouse Pénélope dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif.
Le couple sera jugé en novembre prochain. En première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes.
À propos de justice, un procès en vue pour Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée.
Renvoyé devant la justice pour son usage illégal de passeports diplomatiques. Et puis c'est une première, un collectif de 6 ONG lance une action de groupe contre l'État, contre les contrôles d'identité discriminés. discriminatoires. Ces associations veulent dénoncer la défaillance fautive de l'État face à l'ampleur et la persistance de la pratique du contrôle au faciès.
Le tour du monde en 80 jours. Eh bien, ça y est, nous y sommes. 80 jours en mer. C'est le sprint final dans le Vendée Globe.
Et on vous retrouve en direct des Sables d'Olonne. Corinne Boulot, bonsoir Corinne.
Bonsoir.
C'est Charlie Dalin qui devrait franchir le premier la ligne d'arrivée dans quoi ? Dans un peu plus d'une heure ?
Oui, c'est ça. Il se rapproche des côtes vendéennes là en ce moment. Il est désormais pointé à une soixantaine de kilomètres des Sables d'Olonne. Il va devoir composer jusqu'à l'arrivée quand même avec un vent mollissant. La dernière estimation le prévoit en effet sur la ligne entre 19h45 et 20h15. Derrière Louis Burton, son dauphin n'est pas annoncé avant 23h30. Boris Herrmann, pas avant 1h du matin. Et Yannick Bestaven est à moins de 400 km en ce moment, vers 3h du matin, lui, sur la ligne au sable. Le Rochelet, en 5e position, peut encore venir coiffer au poteau ses adversaires. Et pourquoi pas être désigné vainqueur ? Rappelons qu'il bénéficie de 10h et 15 minutes de bonification pour avoir participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier. Yannick Bestaven indiquait d'ailleurs à midi au PC Course ne rien lâcher.
Je suis content de savoir que la ligne d'arrivée n'est pas loin. Après, rien n'est gagné. Voilà, je sais, tout est fragile. Je fais attention à tout, je surveille le bateau parce que je sais que ça ne sert à pas grand-chose. Le bateau est fatigué, nous aussi on est fatigué à force de manœuvrer, de se faire dessus, mais ça va, voilà. L'adrénaline nous tient à fond et c'est pas le plus temps à vivre.
Voilà, en attendant, le couvre-feu qui vient de se mettre en place interdit évidemment tout rassemblement pour accueillir le premier navigateur. La préfecture de Vendée a quand même autorisé la présence de 300 bénévoles, feu de détresse en main, pour éclairer le passage de Charlie Dalin ce soir dans le chenal.
Merci Corinne Boulot. Et bien évidemment, dès que vous apercevez le bout du mât du bateau de Charlie Dalin, vous nous appelez. Et puis en handball, la France affronte la Hongrie ce soir en quart de finale du Mondial.
Voilà, une arrivée à Nice d'ailleurs du Vendée Globe sous la pluie.
Oui. Oui, oui, toute la nuit, il va pleuvoir sur les Sables d'Olonne.
Et alors demain, est-ce que ça se poursuit ? On attend encore un temps, c'est vrai, très humide sur l'ensemble du territoire.
Le temps reste perturbé, Julien, sur la majorité des régions. Demain, seuls l'Aquitaine, l'Occitanie, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse auront droit à un temps plus calme et ensoleillé. Dans le sud, attention, la tramontane souffle toujours, demain avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Partout ailleurs, la couverture nuageuse reste très importante, avec des pluies fréquentes, notamment sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche, où là, nous aurons en plus de la pluie, du vent, le vent d'ouest, qui se lève et qui souffle jusqu'à 80 km/h. Alors prudence, puisque dans les Alpes, il neige. Depuis hier, il neige parfois fort. Nous avons 4 départements placés en vigilance orange. Les Hautes-Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, vigilance orange. Avalanche et vigilance orange, pluie, inondation dans ces régions.
Oui, avalanche aussi parce qu'il y a un petit redoux, du coup le manteau neigeux est instable.
Forte neige, redoux et pluie abondante, donc le cocktail parfait pour les avalanches. Les températures, elles sont beaucoup plus douces demain, avec 1 à 13 degrés le matin, 1 pour Belfort, 8 à Paris, 13 à Perpignan. Et alors dans l'après-midi, on va pouvoir enlever une petite couche de veste demain, puisqu'on aura 9 à 19 degrés, 9 à Annecy, 13 à Lyon et Clermont-Ferrand, 14 à Paris, 18 pour Carcassonne et 19 la maximale pour Montpellier.
Ah oui, c'est plus un redoux là, c'est carrément le printemps avant l'heure.
Ça grimpe bien.
Ouais. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau petit point sur la météo à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
18h14, vous restez avec nous dans quelques secondes. État des lieux de la situation sanitaire avec le professeur Frédéric Annet. À tout de suite, ne bougez pas.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, il est chef du service d'urgence de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Bonsoir professeur Frédéric Annet.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Soir. On a beaucoup de questions évidemment à vous poser. Vous avez, j'imagine, entendu comme moi et comme beaucoup de Français ces annonces du porte-parole du gouvernement qui nous dit que plusieurs scénarios plus stricts sont sur la table. Ça va d'un reconfinement totalement strict, un peu comme au printemps dernier, un couvre-feu étendu à tout le week-end. Je sais que ça n'est pas de votre sort, mais en tant que professeur, que médecin, quel est le bon choix selon vous ?
En tous les cas, je ne sais pas quel est le bon choix, mais en tout cas, c'est un choix difficile. C'est un choix difficile au niveau politique, et ça, je ne suis pas un politicien, donc je ne pourrais pas vous donner des informations là-dessus. C'est un choix difficile au niveau sociétal, car les répercussions sociétales sont extrêmement importantes. On voit ce qui se passe dans le nord de l'Europe. Et c'est aussi, et ça c'est peut-être plus surprenant à vous dire, c'est un choix difficile au niveau sanitaire, parce qu'il ne faut pas ne voir que les conséquences sur l'épidémie. On sait que le confinement, et un confinement plus dur, aura un effet bénéfique sur la transmission du virus. mais on sait aussi qu'il y a des conséquences totalement catastrophiques du confinement sur d'autres pathologies, comme les pathologies psychologiques, on le voit actuellement avec les étudiants, comme la prise en charge de maladies chroniques, comme les politiques de dépistage des cancers. Vous savez qu'on est très en retard sur le dépistage du cancer du sein, par exemple, avec des dizaines de milliers de mammographies.
Donc ce sont des éléments qu'on va payer au bout du bout.
Exactement. Et donc on est sur une ligne de crête, même au niveau sanitaire. On ne doit pas avoir qu'un discours sanitaire sur la Covid-19. Tout ce qu'on va gagner sur le Covid-19, il ne faudrait pas le perdre, d'un point de vue uniquement sanitaire, sur d'autres pathologies.
Alors, professeur, l'un des indicateurs clés pour la suite, c'est évidemment le niveau de pénétration du fameux variant qu'on appelle le variant anglais. Il représenterait près de 10% des cas dépistés en Île-de-France. Est-ce que c'est un niveau inquiétant ?
Non, ce n'est pas un niveau inquiétant, c'est l'histoire naturelle du virus. Si vous voulez, ce virus, on l'a vu sur d'autres variants, l'histoire naturelle du coronavirus, c'est de muter progressivement et qu'un nouveau variant remplace l'ancienne souche. C'est complètement, si vous voulez, l'histoire naturelle.
Mais donc, ça veut dire, professeur, que mécaniquement, d'ici un mois, comme le disent beaucoup de vos confrères, au mois de mars, il sera dominant sur le territoire
très,
français.
Très probablement, très probablement. Et simplement, quel est l'enjeu ? L'enjeu, si réellement il est plus transmissible, si réellement il est plus virulent, puisque certaines études anglaises annoncent une mortalité supérieure à plus de 30%, si ces deux faits sont avérés, on manque un peu de niveau de preuve, mais si ces deux faits sont avérés, tout l'enjeu, c'est de retarder, et non pas empêcher, mais retarder simplement l'arrivée de ce variant en France pour pouvoir, si vous voulez, adapter nos capacités hospitalières au flux prochain de patients. Donc, mais de toute manière, l'histoire, elle est écrite.
Ce variant va l'emporter. Le porte-parole du gouvernement, professeur Adné, Gabriel Attal, disait aussi tout à l'heure, le couvre-feu, ça n'est pas suffisant. On en a la preuve de ça ?
Mais écoutez, c'est très difficile.
Parce que c'est vrai qu'on est sur j'aime pas trop l'expression plateau haut, parce qu'on progresse quand même, mais c'est vrai qu'on progresse moins vite que nos voisins quand même.
C'est pas une bonne expression, mais c'est une réalité. En tout cas, on est sur un plateau, c'est vrai, parce que quand on regarde la courbe de l'épidémie, on a l'habitude de cette fameuse courbe en cloche, chère au professeur Raoul. C'est-à-dire que ça vient de zéro et ça repart à zéro. Là, c'est parti de zéro, ça est monté, mais ce n'est pas retombé à zéro, c'est retombé sur un espèce de plateau dont on n'arrive pas à se défaire, et on est complètement impuissant à vous dire si ça va recommencer, une montée exponentielle, ou si ça va diminuer.
C'est un peu terrifiant quand même, après un an de pandémie, d'en être toujours à cette situation-là.
Pour nous, c'est inquiétant parce qu'on a nos hôpitaux qui se remplissent, ils se remplissent progressivement, de manière linéaire.
Le vôtre aussi, c'est le cas ?
Bien sûr, tous les hôpitaux de l'Île-de-France sont en train de se remplir, c'est-à-dire qu'on a toujours un solde positif de patients en réanimation ou de patients en hospitalisation complète, c'est-à-dire dans les services. Et si vous voulez, ce chiffre positif, il est faible, mais il est constant. Tous les jours, on a un peu plus de patients. Et actuellement, nos réanimations, de nouveau, commencent à être saturées, ainsi que nos services d'hospitalisation.
On va pas faire de la politique fiction, mais si confinement il y a, ce qui semble être le cas, on semble s'y diriger à grands pas, combien de temps il faudrait pour revenir à des niveaux maîtrisables, eu égard à ce que vous me disiez sur la pénétration du variant anglais sur le sol français ?
Écoutez, s'il y a une chose que nous a montré cette épidémie, c'est qu'il est très difficile de faire des prévisions,
parce
que tout le monde s'est trompé. Et donc, je ne vais pas m'aventurer à vous donner des précisions sur une durée de confinement qui permettrait d'arriver à un niveau bas. Rappelez-vous, notre président de la République nous avait dit 5000 cas par jour, on ne l'a jamais eu, alors que les prévisions laissaient penser qu'on allait arriver à ce niveau-là.
Donc on est toujours dans le flou.
Voilà, je ne pourrais pas vous faire de prévisions. Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver une décision qui permette quand même de faire vivre la société, parce que empêcher la société de vivre, c'est aussi des conséquences sanitaires terribles.
Et on parle beaucoup
et pouvoir maîtriser l'épidémie.
On parle beaucoup en ce moment de la colère, de la lassitude des Français. En tant que citoyen et puis à travers les patients que vous rencontrez, Covid et autres d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous ?
Non seulement je le ressens, mais c'est un sentiment que j'ai actuellement, parce qu'on est à la fois inquiet, mais on est un peu las de ne pas voir le bout de cette épidémie. Le personnel soignant qui m'entoure, mes collaborateurs, on est tous fatigués, vraiment fatigués. Et si vous voulez, le fait que l'on ne voit pas la fin de cette épidémie, que de plus en plus on va apprendre à gérer cette épidémie comme on gère une nouvelle maladie chronique, comme la grippe par exemple, nous laisse un petit peu, on ne peut pas crier victoire.
Et vous pensez que même quand on sera sorti de cette gestion de crise du quotidien, qu'on aura les vaccins, qu'on sera vacciné, qu'on pourra reprendre une vie normale, d'ailleurs la vie normale c'est pour quand selon vous ?
Je sais que vous ne voulez pas faire de prévision. Encore une fois, je ne peux pas vous donner une date, mais ce dont j'ai peur, le pire des des scénarios, c'est que ce coronavirus se gère après comme la grippe. C'est-à-dire la grippe, on s'en met jamais
d'effet.
Et que ça revienne tous les ans.
Et qu'on soit obligé de se vacciner tous les ans.
Et que chaque année, on serait obligé de changer de vaccin parce que le coronavirus aura changé de variant. Et donc, ce n'est pas catastrophique. Hein. La grippe, on la gère très bien. Mais si vous voulez, c'est une nouvelle maladie qui va s'inscrire dans la durée et pour laquelle il va falloir... Oui. Augmenter nos capacités hospitalières.
Et puis avec les mutations, évidemment que ça implique, ça c'est une autre histoire. Vous avez été très dur avec le gouvernement, justement, sur le départ de la campagne de vaccination. Vous n'avez pas été le seul, bien sûr. Vous aviez déclaré, nous sommes non seulement la risée de l'Europe, mais la risée du monde entier. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu plus de 1 200 000 personnes. Alors, moi je précise toujours, pas vaccinées, parce que le gouvernement dit vaccinés, mais qui ont reçu une première dose, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que vous estimez qu'on a récupéré notre retard ?
Alors notre démarche au départ, c'était un peu de secouer le cocotier, parce qu'effectivement, il y a eu un gros retard au démarrage qui était, bon, on ne va pas y revenir, lié à plein de, si vous voulez, de problématiques bien françaises. On a un peu rattrapé notre retard, mais on l'a toujours par rapport aux autres pays européens. On a une vitesse de croisière qui est, on va dire, satisfaisante. Simplement, on a un problème d'approvisionnement de vaccins.
Mais même professeur, mais même de vaccination. J'ai regardé les chiffres.
Oui, on est à la moitié de l'Allemagne, par exemple.
Sur cette application qui est formidable, qui s'appelle Covid Tracker, je suis les chiffres quotidiens. J'ai vu que pour vacciner l'ensemble de la population française et arriver à cette fameuse immunité collective à l'été, comme le promet le ministre de la Santé, Olivier Véran, faudrait vacciner 400 000 personnes par jour. C'est impossible dans l'état actuel des choses.
Oui, mais vous savez, pour une épidémie, ce qui est important, c'est de décharger les hôpitaux. Et donc, si on arrive déjà à vacciner toutes les personnes à risque qui viennent
à
l'hôpital,
à peu près.
Oui, on est autour de 15 millions de personnes,
15 millions.
18 millions de personnes, on aura déjà fait un grand pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problématiques d'engorgement des hôpitaux, et ça sera un grand pas, puisque la première phase, c'est de sauver des vies. Ensuite, c'est comme vous le dites, atteindre une immunité collective. Attention, il y a plus... les patients sont vaccinés, mais il y a aussi des patients qui ont été infectés, qui ont aussi une immunité. Donc, c'est la somme de ces deux chiffres qui va nous donner l'immunité collective. Mais malheureusement, cette immunité collective, on en est, si vous voulez, on en revient un petit peu, parce qu'on a l'exemple du pays, des villes du Brésil, pardon, des villes au Brésil qui avaient une grande immunité collective, et malheureusement, l'apparition de variants a fait que l'épidémie a rebondi. Donc, même une immunité collective nous rassure, bien sûr, mais on est toujours à la merci d'un variant qui serait résistant.
Professeur Frédéric Adnet, un dernier mot. On recevra tout à l'heure le patron France de Sanofi, qui a accepté avec ses équipes de fabriquer dans l'une de ses usines en Allemagne le vaccin Pfizer. Est-ce que vous jugez que son retard dans le développement de son vaccin à Sanofi, après l'abandon de Pasteur, est symptomatique du déclassement de la France ?
Écoutez, moi, ça m'inquiète un peu sur le niveau de la recherche en France, de la recherche en biologie. On a des secteurs d'excellence. Je pensais que le vaccin était un secteur d'excellence pour la recherche française. Force est de constater, et je le vois aussi au niveau de la recherche clinique, qu'on n'est pas dans les meilleurs. On est loin derrière l'Allemagne, on est loin derrière l'Angleterre, on est loin derrière, évidemment, les États-Unis. Et il va falloir peut-être, après cette crise, re-réfléchir vraiment sur la recherche biologique et médicale en France.
Ça fera débat, c'est sûr.
Parce que je pense que là, on a montré un petit peu notre impuissance et surtout notre retard, et je le vois aussi en recherche clinique.
Bon, merci professeur Adnet d'avoir été ce soir notre invité. Passez un salut amical à vos équipes. On leur souhaite beaucoup de courage dans cette période qui s'annonce compliquée. Merci professeur.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, restez avec nous dans quelques secondes. Le rappel des titres et le débat des grandes voix. Il y a de la tension dans l'air au sommet de l'État à propos justement de ce reconfinement. On en parlera tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, passé de 1 minute. Le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et tension ce soir entre l'Union européenne et AstraZeneca qui annonce des retards de livraison pour son vaccin. Le laboratoire ne pourra livrer que 25% des doses prévues. Le couvre-feu à 18h ne semble pas suffisamment efficace pour freiner la progression du virus. C'est ce que dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement. Plusieurs scénarios sont donc envisagés, notamment un confinement très serré, très strict, que l'exécutif aimerait toutefois éviter. Des concertations avec les parlementaires, les associations d'élus et les partenaires sociaux seront menées dans les prochains jours par Jean Castex. Le festival de Cannes reporté au mois de juillet, du 6 au 17 juillet, là encore en raison de la pandémie. 36 ans après les faits, l'espoir d'élucider enfin l'assassinat du petit Grégory Villemain. La justice accepte de nouvelles analyses ADN. Et puis les premiers concurrents du Vendée Globe attendus au Sable d'Olonne. Charlie Dalin devrait franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 20h.
Merci Isabelle.